Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le Diable. Chapitre 7. Le Médecin. Les prévisions du médecin se réalisèrent de point en point. Le malade échappa aux mortelles atteintes du tétanos, mais la fièvre cérébrale se déclara 2 heures après la saignée. Le médecin, que Jacques avait payé de ses soins d'avance et très libéralement, s'installa auprès du lit du chevalier. La journée fut mauvaise. Quand arriva le soir, l'intensité de la fièvre redoubla et le délire revint avec plus de force encore que la nuit précédente. Le lendemain, et pendant 48 heures de suite, le médecin constata une véritable agonie et dut croire que d'un instant à l'autre, le chevalier allait cesser de vivre. Mais au bout de ce temps, un mieux sensible se manifesta. Le délire cessa. Monsieur de la Tremblay reprit le plein et entier exercice de ses facultés morales. « C'est la clarté soudaine et défaillante de la lampe qui va s'éteindre, » se dit le médecin. « C'est l'effort suprême de la jeunesse qui se cramponne à la vie. Une lueur, un souffle, puis plus rien. » Et il ne s'étonna pas autrement de cette quasi-résurrection. Raoul, en revenant à lui-même, se rappela confusément les faits qui avaient précédé et accompagné son départ de Saint-Germain par une nuit d'ouragan et la catastrophe qui en avait été la suite. Il reconnut son fidèle Jacques et il devina sans peine que cet homme vêtu de noir, à la mine docte et pateline, assis dans un fauteuil au pied de son lit et tenant entre ses jambes croisées une longue canne à pomme d'ivoire, était un médecin. D'ailleurs, Raoul interrogea Jacques à ce sujet, et la réponse du valet confirma les suppositions du maître. Monsieur de la Tremblay manifesta le désir de rester seul pendant un instant avec le médecin. Jacques quitta aussitôt la chambre. « Monsieur, dit alors Raoul, approchez-vous un peu de moi, je vous prie, car je sens que ma voix est bien faible. » Le médecin fit avec empressement ce que lui demandait le malade. Raoul poursuivit. « Je viens, monsieur, vous prier de me rendre le plus grand service qu'un homme puisse rendre à un autre homme. »«
Parlez, monsieur, dit le médecin, je vous écoute religieusement. »«
Mais, continua le chevalier, me promettez-vous de faire ce que je vous demanderai ?»«
Cela dépend-il entièrement de moi ?»«
Oui. »«
Cela ne peut-il me compromettre en rien ?»«
En rien, absolument. »«
Alors je vous promets de faire ce que vous voudrez. »«
Vous me le jurez ?»
Soit, je vous le jure.
Eh bien, monsieur, dites-moi la vérité.
La vérité ? Répéta le médecin avec un étonnement manifeste. À quel propos ?
La vérité sur mon état.
Vous voulez savoir ce que je pense de la nature et de la gravité de votre maladie ?
Oui.
Posez vos questions. Je répondrai.
D'abord, quel est mon mal ?
Une fièvre cérébrale.
Ai-je été en danger ?
Oui.
Y suis-je encore ?
Le médecin hésita.
Raoul répéta sa question.
J'espère que non, dit-il enfin.
Je vous conjure, reprit le chevalier, je vous conjure de bien réfléchir à l'engagement que vous avez pris tout à l'heure à mon égard. Songez, monsieur, qu'il est pour moi d'une suprême importance de savoir précisément à quoi m'en tenir sur le plus ou moins de temps qui me reste encore à vivre. De graves, d'immenses intérêts en dépendent. Les liens qui m'unissent à quelques-uns des plus hauts personnages du royaume ne peuvent être rompus brusquement. En un mot, ma vie ne m'appartient point, et je n'ai pas le droit de mourir sans en être prévenu à l'avance. Ces paroles bizarres, l'étrange sang-froid de celui qui les prononçait, produisirent sur le médecin une impression profonde.
Cet homme, pensa-t-il, et d'une trempe supérieure. Je peux lui parler franchement, car la vérité ne l'épouvantera pas.
« Vous m'avez entendu ? » fit Raoul.
« Je crois, répondit le médecin, je crois que vous me demandiez si le danger existait encore.
« Oui, je vous demandais cela.
Eh bien, il existe.
Ainsi, je puis mourir d'un instant à l'autre.
Oui.
D'après le calcul des probabilités scientifiques, combien d'heures m'accorderez-vous encore ?
Je ne puis répondre à votre question par une affirmation absolue, Dans le cas présent, la science est muette. Le délire reviendra-t-il?
Cela n'est pas douteux.
Bientôt, en même temps que la fièvre, qui ne tardera guère. Ainsi, si j'ai quelques dispositions à prendre, je dois me hâter, n'est-ce pas?
Je vous le conseille.
Merci, monsieur, dit Raoul. Merci mille fois d'avoir compté sur mon courage et de ne m'avoir rien caché. La manière dont vous m'avez parlé tout à l'heure m'en imposait le devoir absolu. Maintenant, une question encore.
Laquelle?
Reste-t-il pour moi un espoir de guérison?
Sans doute. À votre âge, la nature offre des ressources tellement vivaces qu'il ne faut jamais désespérer de rien.
Mais cet espoir est faible, n'est-ce pas?
Je l'avoue.
Merci de nouveau, monsieur. Et maintenant que vous m'avez tout dit, soyez assez bon, je vous en prie, pour rouvrir la porte et pour rappeler mon valet de chambre.
Jacques attendait dans le vestibule. Il accourut auprès de son maître.
« Mon ami, lui dit le chevalier à demi-voix, prends 25 louis dans la valise. Conduis ce digne médecin jusqu'à la porte de la rue, mets-lui l'argent dans la main et fais-lui comprendre d'une façon discrète et polie que je désire qu'il ne revienne pas.
J'ai mes raisons pour en agir ainsi. »
Jacques obéit aussitôt.
Le médecin, quoique trouvant fort insolite le procédé dont on usait à son égard, en fut ravi dans le fond de l'âme, car il regardait déjà Raoul comme un homme enterré, et il aimait autant le voir passer de vie à trépas sans l'assistance de son ministère.
Jacques revint après avoir rempli sa mission.
« Mon ami, reprit monsieur de la Tremblay, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. »«
Vous, monsieur le chevalier ? » s'écria le valet avec stupeur. « Vous ? Allons donc, c'est impossible !»«
C'est si bien possible, fit Raoul avec un sourire, que cela ne manquera point d'arriver. Et franchement, je ne m'en afflige pas beaucoup. La vie, toute réflexion faite, mérite-t-elle qu'on la regrette? Et comme Jacques ne pouvait retenir ses larmes, le chevalier ajouta vivement.
À quoi bon se désoler ainsi? Cela ne mène à rien. Et d'ailleurs, tu n'en as pas le temps. J'ai des ordres à te donner.
L'exécution de ces ordres demande une célérité excessive. Il faut agir en outre avec beaucoup de prudence et de discrétion.
Je puis toujours compter sur toi, n'est-ce pas?
Jusqu'à la mort, balbutia Jacques qui sanglotait.
Tu sais que je me proposais d'être de retour à Paris dans la nuit maudite de l'accident qui nous est arrivé.
Oui, monsieur le chevalier, je le sais.
Dieu ou le diable en avait décidé autrement, puisqu'au lieu d'être à Paris bien portant, je suis ici un peu plus qu'à moitié mort. Bref, j'étais attendu. Et j'avais à remettre à certaines personnes quelques papiers dont le contenu doit rester un secret pour tout le monde. Ce sont ces papiers que je vais te charger de porter.
J'exécuterai vos ordres de point en point et de mon mieux, je vous le jure.
Donne-moi le petit coffret en écaille rouge que tu as eu le bon esprit de retirer de mon carrosse et que, si je ne me trompe, je vois là-bas sur cette cheminée.
Le voici, monsieur le chevalier.
Et Jacques posa sur le lit le coffret demandé.
Chapitre 8. Le message.
Raoul tira de sa poitrine une très petite clé d'or attachée à un ruban noir qui passait autour de son cou. Avec cette clé, il ouvrit le coffret dans lequel il prit 2 liasses de papier attachées avec des rubans de fil rouge scellés d'un sceau large et bizarre. Ce sceau matérialisait en quelque sorte un blasphème. Il représentait le démon vainqueur figuré sous les traits d'un ange des ténèbres, renversant le crucifix et foulant sous ses pieds de bouc l'agneau pascal expirant. Avec un crayon rouge qui se trouvait dans la cassette, à côté des papiers, Raoul traça sur chacune des liasses les numéros 1 et 2.
« Jacques, dit-il ensuite, écoute-moi et n'oublie pas un seul mot de ce que tu vas entendre. »«
Comptez sur ma mémoire, répondit le valet, elle sera fidèle. »
« Aussitôt que j'aurai fini, continua Raoul, tu iras à Saint-Germain, où tu prendras un cheval de poste et tu gagneras Paris à franc étrier, sans t'arrêter un seul instant en route et sans parler à qui que ce soit avant d'être arrivé. »
« Oui, monsieur le chevalier.
Une fois à Paris,
tu feras ce que je vais te dire. Dût-il m'en coûter la vie, tous vos ordres seront suivis. Tu vois ces deux liasses de papier?
Oui, elles portent chacune un numéro.
Sans doute. Tu peux lire ces numéros?
1 et 2, répondit Jacques en désignant du doigt la liasse de papier correspondant à chacun des chiffres qu'il nommait.
Bien, fit Raoul. Je reprends. Une fois à Paris, tu iras descendre rue du Cherche-Midi dans une hôtellerie à l'enseigne du roi Salomon.
Le roi Salomon, répéta Jacques.
Je me souviendrai de ce nom.
Le propriétaire de l'hôtellerie, continua monsieur de la Tremblay, est un petit homme maigre et chétif, de 60 ans environ. Tu lui diras que tu veux loger chez lui, mais qu'il te faut la chambre des mages. Il te demandera de quelle part tu viens, et pour toute réponse, tu lui montreras cet anneau dont tu auras soin de tourner le chaton en dehors.
Raoul, tout en parlant, prit à son doigt une bague qu'il tendit à Jacques.
Cette bague, de la forme de celle que l'on nomme chevalière, était en or et en fer bruni. Son chaton portait le numéro 5, gravé en chiffres gothiques. Mais ce chaton était mobile, et quand on le faisait tourner, il découvrait une améthyste reproduisant en petit l'image infernale empreinte sur le grand sceau de cire rouge.
Comprends-tu ? Demanda le chevalier après avoir expliqué à son valet le mécanisme de la bague.
Parfaitement, répondit Jacques.
Le maître d'hôtel, poursuivit Raoul, prendra aussitôt vis-à-vis de toi l'apparence de la déférence la plus complète et t'introduira dans une pièce du second étage où il te laissera seul. Tout autour de cette chambre, tu verras de grandes armoires à deux battants, dans lesquelles sont accrochés à des porte-manteaux une multitude de costumes de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Tu revêtiras, à la place de ta livrée, un habillement complet pareil à ceux que portent d'habitude les commissionnaires.
Le chevalier s'interrompit pendant un instant. Il fouilla de nouveau dans le petit meuble d'écaille et il en tira une clé de fer curieusement ciselée qu'il fit tourner dans ses doigts tandis qu'il poursuivait ainsi.
Dans cette même chambre, à côté de la cheminée, se trouve un grand coffre qui semble en vieux bois vermoulu. Mais il ne doit cette apparence qu'à la peinture dont il est recouvert. Ce coffre est en fer et scellé dans le plancher. Tu l'ouvriras avec cette clé.
Le chevalier donna à Jacques la clé dont nous parlions quelques lignes plus haut, puis il reprit.
Tu enfermeras dans ce coffre l'alias qui porte le numéro 2. Quant à celle qui est indiquée numéro 1, tu la serreras dans la plus solide des poches de ta veste de commissionnaire, puis tu te rendras rue Saint-Dominique à l'hôtel du marquis de Thianges.
Je connais ce nom, continua Jacques, et je sais où est cet hôtel.
Selon toute apparence, continua Raoul, le Suisse refusera de te laisser passer. Tu le chargeras de faire savoir à son maître que tu viens de la part du numéro 5, et le marquis de Thianges te recevra aussitôt.
Que lui dirai-je ? Demanda Jacques.
Tu lui remettras l'alias de papier en lui faisant remarquer que le sceau de cire rouge est intact. Il te questionnera sur mon compte, il te demandera où je suis et pourquoi je ne suis pas venu moi-même. Tu ne répondras à aucune de ses interrogations et tu te contenteras de lui annoncer que le lendemain, à l'heure qui lui conviendra le mieux, tu viendras chercher sa réponse s'il croit devoir en faire une au papier dont il aura eu le temps de prendre connaissance.
Je n'oublierai pas un mot de tout cela, dit Jacques.
Monsieur de la Tremblay reprit. En quittant l'hôtel de Thianges, tu retourneras rue du Cherche-Midi, à l'enseigne du roi Salomon, tu prendras l'alias numéro 2 et tu iras au palais royal.
Au palais royal ? Répéta Jacques.
Oui, répondit Raoul. Tu t'arrangeras de façon à parler à un certain Maxime, l'un des valets de chambre de Monseigneur le Régent, et tu lui donneras la bague que je t'ai confiée, en le priant de la mettre sous les yeux du Régent et de lui dire que le porteur de cette bague sollicite une audience immédiate.
Et le Régent me recevra ? S'écria Jacques avec étonnement.
Non seulement il te recevra, mais encore il ne te fera pas attendre une minute s'il est au palais royal.
Mais s'il n'y est pas, que ferai-je?
Tu guetteras son retour de manière à remplir ta mission le plus vite possible.
Comment devrais-je me conduire en présence du régent?
Tu le remettras les papiers dont tu seras porteur, et tu répondras à toutes les questions qui te seront adressées par lui à mon sujet. Seulement, tu lui tairas le nom de l'endroit où je me trouve et le danger que je cours en ce moment. Tu le prieras en outre de vouloir bien te promettre une réponse pour le lendemain.
Oui, monsieur le chevalier.
Une fois muni des deux lettres que tu auras sollicitées et obtenues, tu échangeras ton costume d'emprunt contre la livrée que tu reprendras. Tu donneras 10 louis à l'hôte du roi Salomon, tu remonteras à cheval et tu reviendras ici à Franc-Étrier.
Oh, fit Jacques, soyez tranquille, je ne perdrai pas une heure, pas une minute, pas une seconde.
Si tu me retrouves vivant, poursuivit Raoul, tout sera pour le mieux, et nous verrons ce que nous aurons à faire. Si, au contraire, ainsi que cela est probable, je suis mort. Jacques interrompit son maître par une énergique et involontaire exclamation. Le chevalier lui fit signe de se calmer et reprit. Si, au contraire, ainsi que cela est probable, je suis mort à ton retour, tu brûleras les lettres que le régent et le marquis de Tianges t'auront remises pour moi. Tu hériteras des quelques milliers de louis qui sont dans la valise et que je te donne en toute propriété. Tu me regretteras si tu veux, ou tu ne penseras plus à moi si tu n'as pas le temps d'y penser. Jacques pleurait. Raoul lui tendit la main, qu'il embrassa à plusieurs reprises et qu'il arrosa de ses larmes. « Va, mon ami, dit le chevalier, va vite, il n'y a pas un instant à perdre. Et d'ailleurs, je me sens épuisé d'avoir parlé si longtemps. » En effet, depuis quelques minutes, la voix de Raoul s'affaiblissait de plus en plus, et il lui semblait qu'une sorte de voile s'interposait de nouveau entre ses yeux et les objets environnants. Monsieur de la Tremblay, brisé de fatigue, laissa retomber sa tête sur l'oreiller, et Jacques sortit de la chambre en s'efforçant, mais en vain, de comprimer l'expression de sa douleur.
Chapitre 9. Le secret de Madeleine.
À mesure que la tête de Raoul devenait plus lourde et que la fièvre commençait à battre dans ses artères, son regard s'attachait avec une fixité involontaire sur les figures de la tapisserie de haute lisse qui se trouvait en face de son lit. Le doux et charmant visage de la reine Balkis exerçait sur lui une fascination irrésistible. Dans cet état qui n'était ni le sommeil, ni la veille, ni le sang-froid, ni le délire, ce visage lui apparaissait ainsi qu'une vision consolante et protectrice. L'imagination échauffée du chevalier ne lui représentait point la jeune reine comme l'un des personnages inanimés d'un tableau. Il croyait à la réalité de son existence, à la matérialité de sa présence. Elle semblait, se disait-il, lui sourire et lui tendre les bras. Elle allait venir jusqu'à lui, il n'en doutait point, et apporter avec elle la guérison et le bonheur. On voit que le délire, un instant disparu, commençait à reprendre ses droits. Mais soudain, chose étrange, la fiction devint une réalité. À travers la brume diaphane de son esprit et de ses regards, Raoul vit distinctement la tapisserie se mouvoir. La figure de la reine Balkis se détacha lentement du groupe qui l'environnait. Sa démarche était gracieuse comme sa beauté. Ses petits pieds touchaient le plancher sans qu'on entendît le bruit de ses pas. Elle vint droit au jeune homme. Raoul ferma les yeux, ébloui par l'éclat de cette merveilleuse apparition. « Oh, madame, balbutia-t-il d'une voix presque inintelligible, si vous n'étiez reine par votre diadème, vous le seriez par votre beauté. » Et à peine venait-il de murmurer ces paroles que le peu de raison qui lui restait s'évapora complètement sous les ardentes étreintes de la fièvre qui envahissait son cerveau. Cependant, Raoul n'avait rien rêvé. Tout ce que nous venons de raconter, il l'avait vu réellement. Au moment où il lui avait paru que la tapisserie s'agitait, la porte de la chambre s'ouvrait en effet. Quand il avait cru voir la reine s'avancer de son côté, c'est que Jeanne venait d'entrer et marcher vers le lit. Le dévouement et la compassion, nous le disions un peu plus haut, prépare merveilleusement à l'amour le cœur des femmes. Les conditions dans lesquelles Jeanne se trouvait placée ne permettaient guère à la pauvre enfant de faire exception à la règle générale. Isolée dans la vie et dans le monde, avec une mère dont nous connaissons déjà le caractère aigri et farouche, menant une existence monotone et incolore, en dehors de toute relation, n'allant jamais nulle part, ne recevant jamais personne, N'était-il pas logique de supposer que Jeanne s'éprendrait facilement du premier homme de quelque valeur que le hasard jetterait sur son chemin? Or, le hasard avait fait les choses de telle façon que les probabilités ne pouvaient manquer de devenir des certitudes. Raoul réunissait les triples et irrésistibles séductions de la beauté, de la jeunesse et de la souffrance. Comment le pauvre cœur de Jeanne aurait-il résisté? Ce cœur résista d'autant moins que la candide et pure enfant ignorait le péril et qu'elle se laissait aller en toute innocence au plaisir amer d'entourer de tendresse ingénue ce jeune homme qui allait mourir. Jeanne aimait donc passionnément Raoul, qui, lui, ne la connaissait même pas. Au moment où le chevalier venait de l'apercevoir pour la première fois, elle entrait dans la chambre après avoir fermé la porte de la rue sur Jacques partant pour Paris. Selon sa coutume, elle se glissa doucement derrière les rideaux du lit afin d'écouter la respiration plus ou moins calme de Raoul. Il lui sembla que le jeune homme dormait d'un paisible sommeil. Alors, elle quitta la salle basse avec autant de précautions qu'elle en avait pris pour y entrer, afin d'aller retrouver sa mère qui s'étonnait et s'irritait de ses absences, trop fréquentes et trop prolongées selon elle. Madeleine de Chambard, depuis le changement opéré en elle à la suite de l'assurance qui lui avait été donnée par sa fille de la richesse du blessé, demanda régulièrement plusieurs fois par jour des nouvelles de monsieur de la Tremblay et semblait prendre le plus vif intérêt à tout ce qui concernait le jeune homme. Elle ne tarissait pas en interrogations sur ce sujet et sa curieuse sollicitude s'étendait jusqu'aux faits et gestes de Jacques, le valet de Raoul. Ce jour-là, elle s'empressa de demander à Jeanne. « Eh bien, comment va-t-il ? » « Mieux, beaucoup mieux, je l'espère du moins, » répondit la jeune fille. « Dieu en soit béni !» s'écria la malade avec une fausse apparence de joie en se mordant les lèvres jusqu'au sang pour cacher une grimace de désappointement. Puis elle ajouta au bout d'une minute. « J'ai cru ce matin entendre ouvrir et fermer la porte de la rue. Me suis-je trompée ? » ?»« Non, ma mère. » « Qui donc est sorti ?»« Le médecin d'abord, le domestique ensuite. » »« Où allait le médecin ?»«
Il retournait à Saint-Germain. » »«
Pour longtemps ?»«
Il est payé et congédié. » »«
Ainsi, il ne doit pas revenir. » »«
Non, à moins qu'on le fasse appeler de nouveau. » »«
Et le domestique, où l'envoyait-on ?»«
À Paris. » »«
Quand doit-il revenir ?»«
Dans 2 ou 3 jours, m'a-t-il dit. » »«
Pas avant ?»«
Non. » Il est chargé par son maître de commission qui nécessite au moins ce laps de temps.
Ainsi, nous voilà seuls dans la maison avec ce jeune homme.
Oui, ma mère.
Est-ce que cela ne t'effraie pas, mon enfant?
Moi, ma mère? Et pourquoi voulez-vous que cela m'effraie?
Monsieur de la Tremblay est dangereusement malade. Et d'ailleurs, fût-il complètement guéri, nous n'aurions rien à craindre de lui. Au contraire, si quelque danger nous menaçait, il serait là pour nous protéger et nous défendre. »
Jeanne prononça ces derniers mots avec une extrême chaleur.
« Comme tu t'animes, mon enfant !» lui dit sa mère avec un sourire.
Jeanne rougit beaucoup. La malade reprit.
« Enfin, tu t'intéresses à ce jeune homme, et je ne vois rien là que de fort naturel. »
« Oui, ma mère, » balbutia la jeune fille.
« Eh bien, cette nuit, j'ai pensé à une chose. »
« Laquelle ?»
C'est qu'il ne tenait qu'à moi de le guérir beaucoup plus vite et beaucoup mieux que ne le pourraient faire ensemble tous les médecins de la terre.
« Vous, ma mère ? » s'écria vivement Jeanne. « Vous ? Et comment cela ? »
« Je me suis souvenu d'un secret précieux qui m'a été donné dans ma jeunesse par un physicien étranger dont la science était célèbre et qui avait rempli le monde entier du bruit de ses cures miraculeuses.
« Quel est ce secret, ma mère ? »
Tu vas le savoir. Ouvre ce bahut sculpté qui est adossé à la muraille derrière la tête de mon lit.
C'est fait?
Regarde sur le 3e rayon du côté gauche, si je ne me trompe.
J'y suis.
Que vois-tu?
2 petits vases en terre cuite, différents ustensiles en cuivre, dont j'ignore le nom et l'usage, des chapelets de fleurs desséchées.
N'y a-t-il pas d'autres objets?
Sans doute il y en a, et en grand nombre.
Parmi ces objets se trouvent des fioles, n'est-ce pas?
Plusieurs, de formes et de grandeurs variées.
L'une de ces fioles doit être rempli aux trois quarts d'une liqueur de couleur sombre. »
Jeanne chercha pendant un instant, puis elle répondit.
« La voici.
Apporte-la-moi. Je veux m'assurer que tu ne te trompes pas. » La jeune fille fit ce que lui demandait sa mère. Madeleine de Chambard se souleva à demi sur son séant pour prendre le flacon des mains de Jeanne. Elle en examina attentivement le contenu, puis elle le déboucha, l'approcha de ses narines et sembla en respirer le parfum avec un sentiment de plaisir qui devait être bien vif, car un éclair joyeux jaillit de ses prunelles et un sourire entr'ouvrit pour un instant ses lèvres pâlies.
« C'est bien cela, » murmura-t-elle ensuite.
« Oui, c'est bien cela. » Et elle ajouta plus haut. « À coup sûr, la guérison est dans cette fiole. » Jeanne fit un mouvement de joie. La malade reprit en s'adressant à sa fille. « Ce soir, à peu près à la tombée de la nuit, tu verseras le tiers environ de cette liqueur dans la potion du beau gentilhomme que tu appelles, je crois, Raoul de la Tremblée. Tu feras en sorte qu'il boive ce mélange, et demain matin, il ne souffrira plus. » En entendant ces paroles, il fut impossible à Jeanne de répondre un seul mot. Un bonheur si profond venait d'envahir tout son être qu'il le paralysait en quelque sorte. Elle prit la fiole des mains de sa mère et s'apprêta à quitter la chambre afin de dissimuler son émotion. Madeleine la retint. « Un mot encore, mon enfant, » lui dit-elle.
« Quoi, ma mère ?
Le valet de Monsieur de la Tremblée n'a-t-il point emporté, en allant à Paris, cet or dont tu m'avais parlé ?»«
Non, ma mère, » répondit Jeanne. « Mais pourquoi cette question ?»«
Curiosité pure, tu le comprends. Car, enfin, que nous importe que ce gentilhomme ait ou n'ait pas d'argent ? Nous ne songeons guère à lui demander le paiement du peu que nous pouvons faire pour lui. »
« Non, certes, » s'écria Jeanne, sans remarquer combien était étrange l'accent avec lequel sa mère venait de lui parler.
« Maintenant, » poursuivit la malade, « va, mon enfant, va, je n'ai pas besoin de toi dans ce moment. » Jeanne sortit. Madeleine, restée seule, s'écria aussitôt avec une énergie dont on devait la croire incapable, à voir son corps usé et son visage défaillant. « Assez de misère, assez de souffrance comme cela. Je veux en finir une bonne fois pour toutes, et puisque le hasard jette une fortune sous mes pieds, cette fortune ne m'échappera pas. Fallut-il la ramasser dans le sang ?